Bonjour tout le monde. Merci d'être à l'écoute de cette émission. J'espère que ça se passe bien pour vous. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On va reparler du pourboire parce que il y a bien des gens qui sont mêlés, puis des fois je suis aussi là-dessus, à savoir, bon, tu sais, quand tu vas dans un comptoir, tu prends un café ou tu commandes une soupe à un comptoir, dois-tu laisser du pourboire? Puis il y a toujours régulièrement des gens qui m'écrivent là-dessus, puis avec l'équipe, on se dit, tiens, refaisons un peu la lumière là-dessus. On aura le chef que vous connaissez bien, Dany Saint-Pierre, qui va nous dire ce qu'il en pense, lui, parce que c'est vrai qu'en discutant de tout ça, on se rend compte que c'est pas simple. Alors, on viendra sur cette question, puis vous me direz, vous, si vous savez combien laisser de pourboire et à qui. Les tests de connaissances. Vous savez que François Legault voulait en faire passer aux immigrants. Et là, nous, on se disait, coudonc, à la lumière du Vox Pop que vous avez sans doute vu, si vous n'avez pas vu le Vox Pop de Nantel, de Guy Nantel, l'humoriste, vous en avez entendu parler, c'est sûr. Toujours est-il qu'on se rend compte que les électeurs ne sont pas tous au même niveau. Tu sais, au niveau de l'information, tu n'as pas forcément toute la même notion de qui est le chef de quoi. Et qui a dit quoi en termes de politique. Même des étudiants en Sciences Po qui ont interviewé montraient à quel point peut-être qu'il avait manqué des cours. Bref, je vous demande si vous êtes d'accord, vous, avec le fait qu'on fasse peut-être passer un test de connaissance aux électeurs avant de voter. Si tu veux voter, montre-moi que tu as un minimum vital d'informations. Ça peut être une idée. Vous me direz ce que vous en pensez. Il y a déjà des gens qui m'écrivent là-dessus. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une bonne idée. Après, bon, comment mettre ça en place, c'est une autre chose. On en discutera tout à l'heure. En première heure d'émission, toutefois, je voulais qu'on vienne sur un sujet dont on a finalement relativement peu parlé durant cette campagne. Ça a commencé avec ça, c'est-à-dire la santé. Puis pourquoi on aurait dû en parler plus de la santé? Puis pourquoi on est passé à côté d'une belle occasion de bien faire? C'est que finalement, ça reste votre priorité numéro un. Numéro un et numéro deux. La santé, là, quand on regarde ça, puis ça, c'est un sondage qui nous apprenait cette semaine, finalement, que c'était le cas. Qu'est-ce que la priorité numéro un pour vous, chers Québécois? C'est l'accès à un médecin de famille. La priorité numéro deux, c'est quoi? L'attente aux urgences. Ça, c'est les deux principales priorités des Québécois. Trouvez-vous qu'on en a assez entendu parler? Visiblement, non. On ne demandait pas de régler ça, là. Ça fait des années qu'on essaie d'y arriver. C'est sûr qu'on ne réglera pas ça en un mois de campagne électorale. Mais avouez qu'on aurait pu en parler pas mal plus, puis essayer au moins d'apporter certaines solutions. On pourrait au moins discuter de certaines choses. On va le faire, nous, ce matin. Je vous propose une discussion avec mes invités. On a avec nous le docteur Simon-Pierre Landry, qui est omnipraticien. Il est chef du département de l'urgence de l'hôpital Laurentien de Sainte-Agathe-des-Monts. Il est co-porte-parole du regroupement des médecins omnipraticiens pour une médecine engagée. Bonjour, docteur Landry.
Bonjour, Mme Marchand.
Alors, merci de prendre le temps de nous parler ce matin. Je sais qu'on va vous laisser retourner à l'urgence dans pas longtemps, mais merci de prendre le temps. Avec nous également, Pierre Blain, président directeur général de Les Usagers de la Santé du Québec. Merci, Pierre, d'être là.
Merci.
Jacques Beaulieu, évidemment, chroniqueur, blogueur au HuffPost Québec, qui, je dis évidemment parce que Jacques s'y connaît bien en matière de dossiers de santé. Il les a vus passer les uns après les autres, les ministres de la Santé.
Oui, il y a des fois, c'est étrange. Franchement, ça se ressemble beaucoup.
Finalement?
Oui.
je vais commencer avec notre médecin, vous me permettrez. Docteur Landry, est-ce qu'on n'aurait pas eu avantage à parler plus de santé? On n'a pas beaucoup parlé. Comme médecin, est-ce que vous-même, vous déplorez ça?
Oui, absolument. Je pense qu'on en a mal parlé, finalement, de la santé. Parce que de quoi est-ce qu'on a parlé? On a surtout parlé des candidats, un peu comme si c'était un repêchage de la Ligue nationale de hockey, là, qui allait être, finalement, le sauveur, le candidat pour chacun des partis. Au lieu d'utiliser finalement l'élection pour parler des vrais enjeux de société qui sont devant nous, les choix très difficiles que ces futurs ministres-là vont avoir à faire. Je vous donne des exemples. Il faut se poser la question comme société, est-ce qu'on veut mettre de l'argent finalement pour se payer la dernière molécule qui va permettre de diminuer le cholestérol, donc les dernières pilules, ou on souhaite plutôt avec cet argent-là engager des préposés aux bénéficiaires pour nos CHSLD? C'est le genre de question finalement qu'il faut se poser comme société. Est-ce qu'on veut plus de médecins de famille, moins de médecins spécialistes? Et j'aurais aimé finalement qu'on mette ces discussions-là sur la place publique, qu'on questionne les candidats pour savoir finalement c'est quoi leur vision. Où est-ce qu'ils veulent amener le paquebot de la santé? Parce que évidemment, il y a énormément de problèmes et Et on trouve pas que les annonces des candidats, finalement, répondent aux aspirations des gens qui travaillent sur le terrain.
Il y a eu l'événement Gertrude Bourdon, la candidate du Parti libéral du Québec, qui a occupé, effectivement, comme vous le dites, au moins la première semaine complète de la campagne. Vraiment trop long. Il y avait évidemment Daniel McCann de la CAQ, mais on a beaucoup parlé, à part de parler de Gertrude, c'était devenu vraiment comme ça, elle était devenue un prénom. On a aussi beaucoup parlé du salaire des médecins, et comme vous êtes médecin spécialiste, je peux pas faire autrement que de vous demander.
Je suis médecin de famille,
oui,
travaille à l'hôpital.
Omnipraticien à l'urgence, oui, c'est vrai. Oui, pardon. Mais comme médecin, donc, est-ce que vous auriez été ouvert à ce qu'on en discute plus? Parce que on s'est tout de suite fait dire, de toute façon, l'entente est négociée, il sera pas possible de revenir sur cette entente. Seriez-vous prêt, vous, comme médecin, omnipraticien, à revenir là-dessus? Est-ce que vos collègues spécialistes, ceux qui sont autour de vous, Dr. Landry, est-ce que, entre vous, est-ce que vous vous le dites, les gens, ils ont raison de trouver qu'on fait trop? Comment vous discutez de ça, vous?
C'est une bonne question parce que, écoutez, j'ai fait en février dernier à l'Assemblée nationale une sortie pour le regroupement où est-ce que ce qu'on disait finalement, c'est qu'il y avait une porte de sortie de cette crise-là qui était de mettre... On a demandé finalement à la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec de sonder ses membres pour faire un plan finalement qui permettait à tous les partis de sortir gagnants, incluant les patients, où est-ce qu'on offrait finalement la possibilité aux spécialistes d'avoir un gel de leur rémunération et des médecins de famille d'avoir l'inflation de leur rémunération pour essayer de réduire l'écart entre les deux groupes. Et en échange, que les sommes finalement qui sont retournées au trésor public puissent être réinvesties dans l'embauche de personnel pour améliorer finalement les conditions de travail des médecins.
Ouais.
Parce que moi, quand je parle à des médecins, là, ce qu'ils me parlent, c'est de leurs conditions de travail. Ils ne me parlent pas de leurs revenus. Et donc, nous, ce qu'on voyait finalement en faisant cette sortie-là, c'était de dire il y a un moyen d'arriver à mobiliser les médecins si on peut convaincre les médecins que l'argent qu'ils vont d'une certaine manière retourner, cet argent-là va servir à de l'embauche de personnel que les médecins vont décider d'embaucher eux-mêmes. Donc, c'est là l'importance, c'est de leur dire, écoutez, avec cet argent-là, on vous garantit que vous allez avoir des meilleures conditions de travail. Et ça passe par quoi? Ça passe par avoir des infirmières en quantité suffisante dans nos cliniques pour rappeler les patients. Ça passe par avoir des préposés aux bénéficiaires dans les blocs opératoires pour faire plus d'opérations. Les médecins vont être contents. Vous voyez un peu le genre de...
Et donc, vous dites, vous avez interpellé, Dr. Landry, la Fédération des médecins spécialistes. Ils ont répondu quoi? Est-ce qu'ils ont accepté? Qu'est-ce qu'ils disent? Parce que la position que je connais d'eux, c'est ils sont assez barrés à ces augmentations. Il n'y a pas question de revenir là-dessus, là.
Oui, ben ça a été un peu dommage, justement, qu'il n'y ait pas de réponse. Mais je crois quand même qu'il y a une trame de fond. Je dis pas que tous les médecins sont d'accord avec ce plan-là. Moi, nous, ce qu'on voulait faire, on est une organisation qui est très, très pro-démocratie. Ce qu'on disait, c'était faites un sondage des membres à l'interne et voyez les deux options. Est-ce que les gens seraient prêts à considérer, finalement, un gel de leurs revenus pour les médecins spécialistes parce qu'ils ont eu beaucoup d'augmentations depuis l'entente entre Gaëtan Barrette et Philippe Couillard en 2007. Hein? C'est des augmentations qui ont été négociées en 2007 qui ont été réparties jusque-là. Et donc, nous, on croyait que, bon, ils seraient capables de réinvestir l'argent qui est encore à décaisser pour l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est juste de changer, finalement, la perspective, de dire ce qu'on veut, c'est pas de l'argent, c'est des conditions de travail. Le système est vraiment sous pression. Les médecins sont sous pression. Le taux de burn-out chez les médecins spécialistes et chez les médecins de famille est énorme. Et ça, c'est un symptôme, finalement, que les conditions de travail ne sont pas adéquates.
Ouais,
pour les améliorer, ça va prendre de l'argent. Mais... Il va falloir qu'on réorganise le réseau de la bonne façon.
Regardez, même ce matin, on apprend là, que on essaie d'implanter des projets pilotes pour essayer d'augmenter le ratio infirmière-patient. Ça a été négocié en mars dernier pour essayer de répondre un peu à la crise d'épuisement des infirmières. Puis là, ces projets pilotes-là, on n'est même pas capable de les mettre en place. On les a reportés de plusieurs mois parce qu'il n'y a pas d'infirmières. On n'en a pas d'infirmières. Fait qu'imaginez le problème. J'aimerais entendre Pierre Blain là-dessus, puis Jacques Beaulieu. Pierre?
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est ça le vrai problème. C'est le problème de recrutement. C'est pas le ministère de la Santé qui va recruter du personnel, c'est le ministère de l'Éducation qui va les former, c'est le ministère de l'Emploi qui va les convaincre d'aller dans ce secteur-là, et les commissions scolaires doivent être là aussi. C'est ça le vrai problème.
Jacques Beaulieu.
Effectivement, il y a une grande partie du problème qui est là. L'autre partie est dans l'organisation même du système. C'est-à-dire que là, présentement, on a un système qui est un peu comme pyramidal. C'est-à-dire il y a un penseur en haut, puis les directives vont du haut vers le bas. Ce que le bas a besoin, ça, ils n'ont aucun contrôle, eux, là-dessus. Ils doivent attendre des directions d'en haut. Alors, tant que ça ne sera pas modifié pour donner la parole aux groupes qui travaillent dans le ministère, qui travaillent dans le ministère de la Santé, qui font le travail, finalement, aux infirmières, aux médecins. C'est à eux de décider comment ils vont organiser leur travail, et eux, on les écoute pas. On leur dit, voici ce qu'on a décidé, puis voici ce que vous allez faire, puis si jamais vous le faites pas, on va changer de conseil d'administration.
Parce que je vous ramène à ma question du début, en considérant que les deux priorités pour les Québécois en ce moment, là, au-delà de l'environnement, au lieu de l'économie, les deux principales priorités, c'est l'accès à un médecin de famille et c'est le temps d'attente aux urgences. Et là-dessus, on a proposé quoi, Pierre Blais?
Rien. On n'a rien proposé. Mais moi, j'aurais une question à poser au docteur.
Docteur Landry, oui.
Oui, pour une raison bien simple, c'est que les infirmières, il y a un problème aussi pour elles de revalorisation de leur rôle. Est-ce que vous, comme médecin, vous êtes accepté de travailler d'égal à égal avec une infirmière?
Les temps ont beaucoup changé, c'est-à-dire que là, vous faites référence à de l'interdisciplinarité. C'est
un
terme qui est beaucoup lancé dans la campagne électorale. Et ça, écoutez, moi, je suis aussi propriétaire d'une clinique, là, une nouvelle petite clinique, et pour essayer de désengorger l'urgence. Et voyez-vous, ce que nous, on met de l'avant, c'est que il va falloir travailler, oui, avec des infirmières praticiennes spécialisées, des infirmières, même que je ne suis pas capable de recruter des jeunes médecins si je ne peux pas leur promettre des infirmières pour travailler avec eux. Donc, l'espèce de cliché d'un médecin qui ne voudrait pas travailler avec des infirmières, des préposés, ça ne fait aucun sens en 2018. Les médecins veulent pouvoir travailler en interdisciplinarité avec le personnel, mais il manque de personnel sur le terrain. Donc, c'est pas une question de corporatisme ou de protectionnisme des gens sur le terrain. Là, on parle vraiment d'une pénurie de personnel. Il y a une revalorisation à faire de la médecine familiale, des infirmières, des préposés. Donc, toutes les branches, finalement, des professionnels en soins qui ont été dévalorisés dans les dernières années.
Mais, docteur Landry, je pense qu'on sait que les médecins aiment bien avoir une infirmière, mais puis là, j'exagère un peu, mais c'est pas juste pour, finalement, prendre les signes vitaux. Les infirmières, ça les intéresse pas de faire ça, là. Prendre le pouls, parce que le médecin, ça y tente pas, mais l'infirmière a fait la petite jobine, puis le médecin y arrive quand il faut vraiment parler de médecine. Alors que
non.
La question, ça serait peut-être, est-ce que vous êtes d'accord pour donner plus?
Oui.
Puis quand on dit vous, là, pas vous personnellement, parce que je pense que vous êtes un médecin ouvert, mais en même temps, il y en a beaucoup, effectivement, vous le dites, c'est une question peut-être génération, mais il y en a des boqués, il y en a qui veulent pas. Pour eux, l'infirmière, c'est quelqu'un qui n'est pas médecin. Il y a des médecins qui sont vraiment comme ça, qui veulent rien savoir. Il n'est pas question qu'elle fasse des points de suture ou qu'elle administre des médicaments ou qu'elle prescrive des médicaments.
Écoutez, il y a tellement de travail sur le terrain, on en a par-dessus la tête. Okay? Donc, le protectionnisme, l'espèce de corporatisme, de ne pas vouloir partager les tâches, donc c'est ça qu'on dit, donner plus d'accès via les pharmaciens, via les infirmières praticiennes spécialisées. Vraiment, là, la majorité des médecins, je parle de la majorité des médecins, ils sont pour ça, parce qu'on déborde de travail. Comme je vous le dis, là, la charge de travail ne cesse d'augmenter. On est dans une société vieillissante.
Ouais.
Les gens veulent de plus en plus de soins et on n'est pas capable de suffire à la tâche. Donc, évidemment, on est pour, en majorité, le partage des tâches. Maintenant, ce qui est fait via le Collège des médecins, ce qui est fait à travers les différents ordres professionnels, c'est très compliqué. Ça prend beaucoup de temps à faire avancer des idées qui sont adoptées par la majorité parce que, évidemment, là, on tombe dans le juridique et on tombe dans des discussions intersyndicales. Mais ce que je vous dis, le pouls du terrain, ce que j'essaie de présenter ce matin, c'est que le pouls du terrain, là, c'est qu'il y a du travail en masse pour tout le monde. Il y en a trop. Puis maintenant, ce qu'on veut, finalement, c'est d'avoir assez de bras dans tous les secteurs d'activité, autant préposés, infirmières que médecins, et partager les tâches pour que tout le monde, finalement, puisse faire ce qui a été formé à faire à l'université. Un médecin, là, ça lui tente de faire de la médecine pour laquelle il a été formé, des cas compliqués. Il veut pas faire, justement, les cas faciles, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien de facile, mais qui peuvent être faits, justement, par un autre professionnel de la santé qui a été bien formé à l'université ou dans nos cégeps.
Ouais. En même temps, je vous écoutais parler du fait que vous aussi, vous avez une clinique, puis là, ça me faisait penser à tout ce projet des fameuses super cliniques dont on nous a dit, vous allez voir, il va y en avoir plein, là, puis elles vont désengorger les urgences. Est-ce qu'on se rend compte, finalement, puis j'ai en tête l'hôpital Pierre Boucher comme exemple. À Pierre Boucher, il y a apparemment qu'il y a une super clinique en face de l'hôpital où, finalement, tous les jours, il envoie des patients à la super clinique, des patients de l'urgence, il les envoie là, les P4, P5, là, les pas urgents, 12 heures d'attente. Il leur dit, traversez la rue, allez à la super experts cliniques. Vous allez voir, on va vous prendre en charge. Et les gens qui sont allés là, les patients, il y en a beaucoup qui témoignent puis disent, hey, oui, sincèrement, ça, je peux même retourner chez moi à la rigueur. Je retourne 2 heures après. C'est rapide. J'ai accès à un médecin. Il y a des infirmières. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils disent, si cette super clinique-là était fermée, là, les gens, là, ça serait, ça n'a pas forcément désengorgé l'urgence. Et ils disent, on peut même plus s'en passer. Donc, il y a eu comme, on dirait qu'il y a plus de malades ou il y a quelque chose, mais...
Bien, l'idée d'avoir des cliniques pour faire certaines interventions qui, historiquement, étaient faites à l'urgence, là, c'est tout à fait une bonne idée, OK? L'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, c'est que la réforme Barrette, au lieu d'augmenter l'offre de services en première ligne, elle a diminué l'offre de services. Je m'explique. Il y a 200 postes en médecine familiale qui ne sont pas comblés à l'heure actuelle dans les 3 dernières années. Ça, c'est, on est la seule province qui n'a pas réussi à combler les postes en médecine familiale. Je vous explique, les étudiants boudent de la médecine familiale. Donc, mm-hmm. ça fait 200 médecins de moins qui ont gradué puis qui travaillent dans ces cliniques-là, dans les urgences et dans les hôpitaux et dans vos CHSLD. Parce qu'on a dévalorisé, via la réforme Barrette, on a dévalorisé la médecine familiale. Et là, on ne peut pas se surprendre finalement que l'offre de services, la quantité d'heures qui sont données par les médecins n'a pas augmenté. C'est-à-dire, on est le même nombre de médecins, sinon moins, parce que il y a une féminisation de la pratique. Donc, il y a des congés de maternité à calculer dans tous les calculs des finissants sortants, qui sont des femmes en majorité entre 30 ans et 40 ans, vous comprendrez. Et aussi le fait qu'il y a des retraites des médecins plus âgés qui avaient des clientèles énormes de 1 000, 2 000 patients. Donc, on se retrouve face à une situation où est-ce qu'au lieu d'avoir valorisé la médecine familiale, d'avoir encouragé les étudiants à choisir la médecine familiale dans les 4 dernières années, on les a découragés de choisir la médecine familiale. Donc, il y a moins d'accès finalement au total. On n'a pas innové et on n'a pas augmenté le nombre de médecins de famille.
Ouais. Écoutez, je sais que vous devez y retourner parce que vous êtes de garde aux soins intensifs, donc on va vous laisser retourner faire ce que vous savez bien faire, docteur Simon-Pierre Landry. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Merci aussi de montrer qu'il y a des médecins, là, parce qu'il y a eu beaucoup de médecins bashing au fil des ans, puis je pense qu'il y en a qui le méritent là, aussi. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de médecins qui souhaiteraient, malheureusement, il y a des fédérations de médecins qui ont la tête dure, puis visiblement, vous le dites vous-même, au regroupement des médecins omnipraticiens pour une médecine engagée, vous avez relancé la Fédération des médecins spécialistes, puis ils vous ont même pas répondu, si j'ai bien compris. Alors voilà. Il est parti, le médecin, je pense, déjà. Il y avait un cas pressant. On va s'arrêter ici. 514-790-9850. Sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Et je vous demande à vous, est-ce qu'effectivement, votre priorité, là, et puis dans 3 jours, vous allez devoir aller faire un petit X, 3-4 jours, là, dans une case, est-ce que vous allez y penser à ces priorités? Effectivement, est-ce que pour vous, on est passé à côté de la discussion sur nos priorités, que sont l'accès à un médecin de famille et également le temps d'attente des urgences qui est toujours très long. Auriez-vous aimé qu'on en parle plus, qu'on essaye de trouver des pistes de solutions? Vous me le dites à l'instant. Alors, on est en train de finalement se dire qu'on est passé à côté de la vraie discussion. C'est plate d'en arriver à cette conclusion-là, à quelques jours d'un vote quand même important pour élire le prochain gouvernement et son chef. Mais c'est sûr que quand je regardais cette semaine quelles étaient vos priorités à vous, électeurs du Québec, qui est citoyen, patient, trop patient sans doute, c'est que les deux priorités qui vous importunent, là, qui vous pressent, c'est de dire réglons ces problèmes-là. L'accès à un médecin de famille est toujours un problème criant au Québec et on attend toujours trop à l'urgence. Et malheureusement, là, je réponds pour vous, je vous donne mon opinion là-dessus. Moi, je pense qu'on est passé à côté de la discussion. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez aimé qu'on en parle plus? Vous attendiez-vous, en début de campagne, à ce qu'on ait des propositions véritables des partis politiques? 514-790-9850. Avec nous, se joint à la discussion le président de la CSN, Jacques Létourneau, qui représente pas mal de monde, 300 000 travailleurs au Québec dans plein de secteurs d'activité, de la moitié secteur public, la moitié secteur privé, des profs, bien sûr, mais beaucoup d'infirmières, beaucoup de personnel de la santé. Bonjour, M. Létourneau.
Bonjour, Mme Maréchal.
Bon, fait que là, vous avez entendu notre bon médecin, Dr Landry.
Ah oui, je voterai pour lui.
Ben moi aussi. Ben non, c'est ça. Mais c'est ce que je disais à mes invités pendant la pause. C'est pas parce que les médecins à qui on parle, c'est des médecins, c'est des bons docteurs. Ils veulent, puis ils sont tous d'accord avec le public puis les patients. Le problème, c'est ceux qui vont s'asseoir avec le gouvernement pour négocier, qui sont négociés 7 milliards quand même d'augmentation.
Ouais, c'est ça. Puis peut-être ceux qui sont au gouvernement puis qui ont l'air à prioriser, comme vous venez de le dire, par exemple, l'augmentation faramineuse des médecins spécialistes, plutôt que de régler avec leur corporation le problème, par exemple, des actes délégués. Ça n'a pas de sens qu'une infirmière puisse pas, encore aujourd'hui, en 2018, donner un diagnostic. Moi, je l'ai déjà vécu, aller d'un CLSC, puis l'infirmière me dit, écoutez, je pense qu'il n'y en a pas de problème avec votre petit, mais pour être bien sûr, il faudrait avoir un médecin, puis passer 8 heures à Sainte-Justine après pour me faire dire la même affaire que l'infirmière.
Ouais, exactement. Alors, parlant d'infirmière, d'ailleurs, Jacques Létourneau, ce matin, on a la confirmation que les projets pilotes là, pour essayer d'augmenter les ratios infirmières-patients, ça marche pas.
Ben non, effectivement, c'est toujours un problème qui est
parce qu'on n'a pas d'infirmières, parce qu'on n'en trouve pas.
En fait, oui, puis c'est ça qui est absolument incroyable. C'est quand vous dites, est-ce qu'on a débattu de la bonne affaire pendant la campagne électorale? C'est vrai que la réforme Barrette a été assez torpillée par les trois autres partis. Mais moi, j'ai l'impression des fois qu'on n'a pas posé la vraie question. Comment on va faire pour recruter de la main-d'œuvre, d'abord dans le réseau de la santé, dans les services sociaux dans les prochaines années, alors qu'il y a des besoins qui sont criants? Puis ça, c'est pas les chiffres de la CSN. On a besoin de 35 000 préposés aux bénéficiaires, 25 000 infirmières, puis 5 000 personnes qui font des soins à domicile. Parce que ça fait des années qu'on nous casse les oreilles avec cette idée-là que il faut sortir le monde de l'hôpital, faut désengorger les urgences, faut pas mettre dans les CHSLD trop vite les personnes âgées, faut les laisser à domicile. Mais ça prend du monde pour s'en occuper.
Vous dites 25 000 nouvelles infirmières et infirmiers?
Oui, préposés aux bénéficiaires, infirmières, puis des gens qui... c'est le comité de planification de la main-d'œuvre du ministère de la Santé qui dit ça, puis vous en comptez une bien meilleure. C'est qu'on s'aperçoit, depuis à peu près 3, 4, 5 ans, qu'il y a une augmentation incroyable du nombre de personnes qui quittent. C'est presque 50% des gens qui ne restent pas comme préposés aux bénéficiaires ou dans les soins à domicile parce que la charge de travail est trop lourde. Les gens sur le terrain, là, ils nous disent... Ben oui, c'est vrai qu'on aimerait savoir des meilleurs salaires, mais on veut aussi et surtout avoir d'autres mondes pour travailler avec nous autres pour faire en sorte que la charge de travail soit moins lourde.
Mais là, si on additionne tout ce monde-là, Jacques Létourneau, là, ça fait 65 000 employés, là, infirmières, infirmiers.
Dans un contexte où il manque du monde partout au Québec.
On a de la misère à trouver du monde pour laver la vaisselle dans les restaurants. Où est-ce qu'on va trouver ça, des 35 000 personnes pour s'occuper des gens dans les CHSLD, là?
On fera pas le débat à matin sur toute la question du phénomène des travailleurs migrants, mais effectivement, ça s'oppose aussi dans le secteur public puis dans le réseau de la santé. Puis moi, je suis pas un grand spécialiste là, sur la question des corporations de médecins puis la reconnaissance des diplômes, mais quand tu te fais dire par une personne qui vient d'Haïti ou une personne qui vient d'Algérie qui a déjà une formation universitaire en santé, c'est pas besoin d'être un médecin, là, puis qui ont de la misère à se faire reconnaître. Il va falloir que quelqu'un, quelque part, à un moment donné, secoue un petit peu plus les puces.
J'en parlais l'autre jour avec une coiffeuse. Elle est coiffeuse, elle est arrivée au Québec de Russie il y a quelques années. Elle est docteur en chimie. Elle est chimiste.
Oui, c'est ça.
Et quand on est arrivé ici, on lui a dit « Ah non, faut tout recommencer ». Ben voyons donc avoir fait son cours de chimie. T'sais? Mais c'est quelqu'un qui aurait très bien pu travailler dans le secteur de la santé, mais il aurait fallu refaire son cours. Tu sais, t'as 40 ans, tu referas pas ta vie là, à l'école.
Exactement.
Il y a quelque chose qui marche pas, mais vous avez raison. Ça, c'est un débat, évidemment, c'est une autre discussion, mais c'est tout est dans tout, comme on dit. C'est relié quand même. Jacques Beaulieu, là-dessus, c'est un dossier que vous connaissez bien, ça, les équivalences et tout ça, mais ça contribue à faire en sorte qu'il manque de monde, parce que c'est ça, il manque de monde.
Exactement. Je pense que c'est, comme je vous dis, tant que les décisions vont venir d'un seul endroit, on va être pris avec ce problème-là. Il faut vraiment donner du pouvoir à ceux qui travaillent dans le milieu puis qui ont des besoins. Alors que ces gens-là qui puissent s'exprimer puis qui puissent aller chercher eux-mêmes les besoins, des ressources pour répondre à leurs besoins.
Ouais, puis là, dernièrement, là, cette semaine, je pensais en début de semaine, Philippe Couillard disait que la santé pourrait peut-être être gérée par une société d'État, une espèce de... Puis ça, c'est votre espèce de sujet, Jacques, parce que vous êtes d'accord avec cette idée qui n'est pas une nouvelle idée.
Non, ça fait une quinzaine d'années au moins ça existe. Alors, il y a Dr. Lamontagne...
On aurait aimé ça qu'il y a 4 ans?
Moi, j'ai fait un livre il y a 4 ans là-dessus, puis j'en ai parlé amplement. Il y avait 3 clés pour régler le problème. Dépolitiser, c'était la première clé. C'est-à-dire que tant que le gouvernement va rester le maître d'œuvre partout, les décisions vont se prendre d'en haut, puis il n'y aura rien qui va se faire. Ça va être extrêmement compliqué. Dépolitiser, c'est la première. Deuxième chose, décentraliser. Ouais. Moi, je pensais qu'ils s'en venaient bien en faisant juste 29 conseils d'administration avec les régions. Mais non, ils ont...
Il a centralisé, tout à la place. Il aurait pu
donner, les pouvoirs à ces régions-là. Puis les gens auraient eu une autonomie. Puis ils auraient pu décider ce qui est mieux pour leur région. Puis la troisième, c'est démocratiser. C'est-à-dire permettre aux gens qui travaillent dans le milieu et aux patients de s'exprimer puis d'avoir un mot à dire là-dedans. De savoir où le ministère s'en va. Là, si c'est un organisme, c'était Santé Québec, par exemple. Monsieur Couillard parlait d'Hydro-Québec. Là, je trouve que ça serait mieux Santé Québec. Mais c'était Santé Québec.
Hydro-Québec, c'est déjà pris, en plus.
Ben, c'est ça. Hein, ouais. Alors, c'est Hydro-Santé qui avait
Hydro-Santé.
Dit.
Ouais, Hydro-Santé. Il donnait l'exemple de Hydro-Québec. Puis il disait qu'on pourrait faire un Hydro-Santé.
Exactement. Puis ça, c'était Monsieur Lamontagne qui avait appelé ça comme... Docteur Lamontagne qui avait appelé ça comme ça aussi, Hydro-Santé, dans son livre.
Alors, non, mais une société d'État...
Exactement. Parce que la société d'État, elle peut gérer au quotidien les problèmes. Ouais. Puis le ministère de la Santé, un peu comme le ministère de l'Énergie, peut gérer des politiques dans le domaine énergétique, mais c'est pas lui qui va gérer le quotidien d'Hydro-Québec. Mm. Alors donc, c'est un peu sur le même modèle. Puis il y a plein d'endroits dans le monde où ça fonctionne, ça. Puis ici, je sais pas, ça fait 15 ans au moins qu'on crie ça.
Oui, mais justement, à la lumière de fois des décisions qui sont prises à Hydro-Québec, là, où, heureusement qu'on a tous besoin d'allumer nos lumières puis de chauffer, oui, mais puis que Hydro-Québec, tout le monde contribue, puis que bon, on est content, on est fiers de ce fleuron québécois. Mais, n'empêche qu'en ce moment, sur l'éolien, on pourrait vraiment se plaindre de la gestion d'Hydro-Québec. Fait que moi, je suis pas sûr que nationaliser la santé, c'est forcément une bonne idée. Moi, j'ai juste envie qu'il y ait juste du monde qui s'organise pour que ça roule.
Il n'y a rien de parfait dans ce beau monde, mais quand tu as une crise, là, une crise de verglas ou une crise, une tornade qui tombe, les gens, là, ils sont sur place, puis ils réparent les choses dans le délai le plus rapide possible, puis il n'y a personne qui se plaint, qui sont trop fatigués, qui ne sont pas capables de faire le travail. Ils répondent aux demandes. Tandis que le ministère de la Santé, là, on doit bien dire qu'ils ne répondent pas à la demande.
Parce que c'est en crise tous les jours. C'est ça. C'est pas une fois de temps en temps. C'est tous les jours. On dirait qu'on est en crise dans notre secteur santé.
À chaque année, au mois de janvier, là, les urgences débordent parce qu'il y a une épidémie de grippe. Mm. Chaque année. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas encore pensé de trouver des solutions pour ça, proposer des solutions?
On va s'arrêter ici. Il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. On va vous donner la parole tout de suite après. Vous pouvez nous joindre. Est-ce qu'effectivement, ce sont toujours vos priorités, là, pour vous, là? Quand on vous demande, on vous a demandé, d'ailleurs, il y a eu un sondage là-dessus. Quand on vous demande, c'est quoi les priorités, là? Pour vous, au Québec, qu'est-ce qu'on doit régler? C'est fascinant de voir qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, finalement. On n'a pas parlé beaucoup d'attentes dans les hôpitaux. On n'a pas beaucoup parlé de l'accès à un médecin de famille. Est-ce que vous auriez souhaité qu'on en discute plus? À tout de suite, tout le monde. Allons voir du côté de nos auditeurs. Vous pouvez nous joindre également en faisant le 514-790-9850 et sans frais le 1-866-790-9850. Bonjour, Linda. Est-ce que vous trouvez qu'on a assez parlé de santé durant la campagne électorale?
Non. Puis, j'ai retenu ce que tu as dit tantôt, au lieu de faire une autre structure là, pour gérer la santé, de trouver des façons innovantes de travailler, que des gens donnent des idées. Moi, dans ma région, j'ai deux cas, là, parce que ma belle-mère, elle faisait de la fibrillation auriculaire, c'était nouveau. Au lieu de passer à l'urgence puis faire du délirium, tu sais, comme moi, les patients âgés qui vont à l'urgence, souvent, ils se retrouvent tout confus, puis ils sont partis d'une filière, puis tout le kit. Mm. Elle a été vue directement par le médecin de famille, le référé directement à l'infirmière clinicienne, qui a fait passer un électro de nouveau, qui a fait voir le cardiologue la même journée, qui a fait des prises de sang. Le cardiologue a prescrit le Coumadin. Salut, bonjour, elle est repartie chez eux avec son petit bonheur. Ma fille avait des gros maux de ventre. Elle est allée voir son médecin, référée à l'infirmière clinicienne. L'infirmière clinicienne, elle a des passes, là. Tu sais, elle peut gérer avec le radiologiste est-ce qu'elle peut passer un écho aujourd'hui. Elle a passé son écho la même journée. Elle a eu des prises de sang. Elle a eu ses résultats. Elle est retournée chez elle sans passer par l'urgence. Ouais. Parce que les médecins de famille, là, comme j'écoutais tantôt à Paul Arcand, un monsieur qui a dit ma femme est là depuis 10 heures hier au matin. Tu sais, il parlait de quoi qu'on peut parler. Mm. Puis lui, il disait la santé. Il disait depuis 10 heures hier au matin, puis elle n'a pas passé encore. Il dit, je l'ai laissé à l'urgence, j'allais chez nous, je suis revenue. Pourquoi ça n'existe pas partout, ça, des infirmières cliniciennes qui ont des passes avec les radiologistes, avec les cardiologues, avec tout le monde? Ça évite une visite à l'urgence, parce que là, elle attend à l'urgence. Ouvrir un dossier à l'urgence, moi, j'ai travaillé 35 ans dans le milieu de la santé, à l'urgence, d'ailleurs, infirmière. Puis, ça coûte très cher ouvrir un dossier. Voir le médecin de l'urgence, c'est une autre facture de plus. Tout ça fait que le système de la santé coûte cher. Pourquoi les médecins de famille n'ont pas le droit de référer à l'infirmière clinicienne partout à travers le Québec, au lieu de payer un médecin à l'urgence et ouvrir un dossier à l'urgence?
Mais Linda, vous savez, comme moi, puisque vous avez été infirmière si longtemps, que des infirmières cliniciennes, on en cherche, là.
Mais non, mais il y en a dans les bureaux en masse, là. Tu sais, moi, je pense que si on a un trouble actuellement, il faut penser à le régler. Puis ça, moi, je trouve que c'est une belle façon. Puis on a des bonnes cliniques dans notre région qui performent très bien. Comme moi, je suis à Saint-Félix-de-Valois. On peut passer un électro là. Il y a une infirmière clinicienne, elle peut nous donner les vaccins puis tout.
Ouais.
Pourquoi toujours envoyer à l'urgence faire des
puis vous avez raison. Puis même des fois à l'urgence, effectivement, parce que je pense, entre autres, en vous écoutant, à ce qui se fait à l'hôpital juif, dont on a beaucoup parlé au cours des dernières années, notamment en comparant leur urgence aux autres urgences, puis en disant cet exemple-là, ils ont une organisation du travail différente. Puis moi, je l'ai testé plusieurs fois. La prise en charge est faite par un groupe d'infirmières qui peuvent décider de t'injecter un médicament si c'est clair que c'est ça dont tu as besoin. Là. Le médecin, des fois, j'y suis allée, j'ai même pas vu de médecin, mais j'ai été prise en charge par des infirmières extrêmement compétentes et ça a désengorgé. Puis en même temps, j'ai pas attendu 15 heures. C'est inadmissible qu'une dame, Linda nous rappelle l'histoire de ce matin dans l'émission de Paul, qu'une dame soit là depuis hier. Voyons donc. Je peux pas croire, puis c'est Jacques Beaulieu qui disait pendant la pause, il nous rappelait que patience, ça vient de...
Le mot patience, ça vient pas du mot patience, ça vient du mot grec pathos, qui veut dire souffrir.
Celui qui souffre.
Ça, c'est celui qui souffre, un patient.
ça fait notre journée, nous rappelait ça, Jacques. Merci, Linda, en tous les cas. Merci, Linda, avec des suggestions également très intéressantes. Mais tu sais, on demande jamais aux bonnes personnes. Qu'on ne demande pas au monde qui sont dedans, les deux mains dedans, qu'est-ce que tu ferais pour améliorer ça? Non, on ne demande jamais ça.
Démocratisation.
Ouais. Jacques Létourneau, vous êtes toujours là, président de la CSN?
Ah ouais. Moi, je proviens du réseau de la santé. J'ai été préposé aux bénéficiaires il y a déjà une vingtaine d'années, là, avant d'être dans le mouvement syndical. Et l'hôpital Charlemagne, sur la rive sud de Montréal. À l'époque, on était dans les projets innovants, organisation du travail, participation du personnel. On a même travaillé à l'époque sur des projets pilotes avec les infirmières bacheliers, les techniciennes, les auxiliaires, les PB, pour essayer justement d'améliorer la pratique. Mais en même temps, le problème, c'est que c'est vrai que parfois, il existe des expériences qui sont intéressantes, mais ils sont marginales, sont à la marge. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de s'inspirer, vous venez de le dire, Isabelle, de s'inspirer de ce que les gens font sur le terrain? Le problème, c'est que la réforme du docteur Barrette est allée complètement dans l'autre sens. Puis, une dernière chose, moi, je suis d'accord avec votre autre invité qui dit qu'il faut dépolitiser le dossier de la santé. La responsabilité du gouvernement, c'est de s'assurer qu'il y a du financement pour qu'on soit capable d'embaucher des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, mais donnons aux gens dans les établissements ou sur une base de territoire, de région, la responsabilité d'organiser les services. Et là, au nom de la lutte à la bureaucratie, parce que c'est ça qu'a fait Dr. Barrette, il a dit, nous autres, là, il y a trop de bureaucratie là-dedans, puis ça pogne. Le monde dit, ah oui, les fonctionnaires, les instances régionales, tout ça, ils ont tous scrappé ça, mais ils ont totalement centralisé l'affaire entre les mains du ministre. Mm. Ça n'a aucun bon sens.
Puis c'est vrai qu'il y en a trop de bureaucratie. Jacques Beaulieu me disait qu'il commençait une série d'articles pour le HuffPost où vous rencontrez, Jacques, des médecins pour voir. Ça fait quoi un médecin dans sa maudite journée, là, tu sais, bon.
Exactement.
Parce qu'avec l'histoire des primes, tu sais, où il faut leur rappeler qu'il faut qu'ils arrivent à l'heure, on se dit, coudonc, qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Mais ils travaillent. C'est vrai qu'ils travaillent, mais ils perdent trop de temps à remplir des dossiers, à faxer des formulaires.
Mon médecin de famille a pris sa retraite à 60 ans. Parce qu'il m'a dit, la réforme Barrette, ça tue la médecine familiale, ça nous embourbe dans de la bureaucratie.
Ouais, ouais,
il est parti à la retraite.
Voilà, puis je pense que c'est... Et il y a beaucoup de médecins insatisfaits, ça, c'est sûr. Christian, rapidement, avant la pause. Bonjour, Christian.
Bonjour, Isabelle.
On vous écoute.
Merci d'être sensible à la situation de la santé. Je sais que ça te tient à cœur.
Mais oui.
Bonjour à tes invités. J'ai été victime d'un accident de la route il y a 17 semaines. Je commence à 18e demain.
Mm-hmm.
Le soir, à l'urgence, on m'a dit, il n'y a rien, prenez du Tylenol 2-3 jours. J'ai une déchirure complète de la coiffe des rotateurs. Je suis allé au privé. On me demande 20 000 $ pour la chirurgie et la greffe.
Oh, mon Dieu.
Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu de spécialiste au public.
Ouais.
Ils m'ont envoyé des fax là, pour demander ça, mais je n'ai jamais eu de nouvelles de personne.
Ouais, bonne chance. Là, ça fait 4 mois, là, puis ça va peut-être prendre une autre année, une année et demie.
Et là, je travaille, moi. Avec un bras. J'ai un édifice de 15 étages. Je ne sais pas comment ce qu'on doit faire, là, ici au Québec.
J'ai pas de réponse pour vous, Christian. Je suis vraiment désolée. J'aimerais ça en avoir. Sincèrement, là. J'aimerais ça en avoir.
Je suis retourné à l'urgence. On m'a dit, le dossier est tombé dans une craque. On s'excuse.
Y en a-tu des grosses craques au Québec? Je sais pas si vous avez
là,
vu
moi,
ça.
Ça fait deux fois que ça tombe dans une craque, là.
Ouais.
Puis tout ce qu'il a fait, il m'a envoyé des fax au privé, puis que j'ai des rendez-vous, puis il a augmenté la dose de morphine. Je sais tout ce qu'il peut faire.
Ah, je sais, je compatis tellement. Je sais exactement ce que vous vivez. Vraiment,
et
Christian,
là,
ouais.
comme je ne peux pas faire toutes les tâches, ben je paye des gens pour compléter mon travail, puis je diminue mon salaire d'autant.
Ouais, ouais. Vous allez voter lundi? Allez-vous être capable d'aller voter?
On va voter de la main gauche, on va voter, ça c'est clair.
Oui, ouais. Ouais, c'est ça. Puis à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, on devrait vous aligner un petit peu, tu sais? On vous le dit pas, là, mais en tout cas, on vous enligne pas mal.
Quand on arrive à l'autre bout, là, la craque du plancher, là, on n'est pas capable de passer.
Non, bon courage, Christian. Donnez-moi de vos nouvelles.
Merci.
Merci
de vous en occuper de la santé.
Merci à vous. Ben, on essaie de brasser des affaires. Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hein? Même Jacques Létourneau, président de la CSN, avec tout son pouvoir... Hein, Jacques?
Non, on n'a pas de pouvoir, arrêtez ça, là. Ouais. On a le pouvoir de parler librement.
C'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on fait.
De rencontrer
c'est
les gens sur le terrain, puis d'essayer de le faire le plus correctement possible. Puis moi, je vais vous dire honnêtement, là, quand je rencontre les ministres, là, je leur dis, c'est sûr que vous prenez le biais syndical. Vous me voyez arriver, là, c'est le président de la CSN, il va nous raconter encore une fois la même cassette du syndicaliste. Mais c'est pas vrai, moi, je leur dis tout le temps, honnêtement, là, moi, quand je vais sur le terrain, si les gens me disent que ça va bien, je viendrai pas vous raconter des histoires que ça va mal. Mm-hmm. Mais ça fait des années que je fais le tour du Québec et des régions, notamment santé. Ça fait, depuis que je suis à la présidence de la CSN, que je répète au ministre, que je répète au premier ministre, ça va craquer. On va être dans la chenoute dans les prochaines années, parce que si on n'est pas à l'écoute de ce que les gens sur le terrain nous disent, on ne sera pas capable de répondre à la demande, puis on va continuer à entendre des histoires d'horreur comme on entend ce matin sur votre ligne. Mm. La personne qui dit « je devrais payer 25 000 piastres pour aller au privé parce que je ne suis pas capable d'avoir une place dans le public », c'est une aberration, là. Mm. On est
mais
aux États-Unis avec un régime à deux vitesses. Voyons donc, ça n'a pas de sens.
Ouais. On va à la pause là-dessus. Mon Dieu, on se pompe un peu pendant la pause parce qu'on est en train de dire, mon Dieu, c'est plus des cracks là, qu'on a dans le système de santé. Là. Tu sais, à un moment donné, quand t'as juste des cracks, ça finit par faire un gros trou. Là.
Les cratères.
Ça se peut pas. Là. On a avec nous Caroline. Bonjour, Caroline. Auriez-vous souhaité qu'on parle vraiment de ce qui nous préoccupe comme Québécois? On le sait, l'accès à un médecin de famille et l'attente dans les urgences. On a à peine parlé.
Oui, bonjour. Ben, en fait, oui, je suis d'accord qu'on n'en a pas beaucoup parlé et qu'on a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Mais moi, je pense que c'est beaucoup au niveau de l'éducation qu'on va pouvoir régler beaucoup de problèmes. L'éducation qui part dans les écoles primaires, où si nos enfants ont plus de connaissances à l'école, ont plus le goût de poursuivre leurs études, ça va être des jeunes adultes plus informés qui vont aller sur le marché du travail, mais surtout qui vont avoir des meilleures habitudes de vie parce qu'ils vont avoir plus de connaissances. Mm-hmm. Quand un problème de santé va survenir, ben ils vont avoir plus d'outils, plus de connaissances pour aller chercher plus de moyens, essayer d'aller chercher l'aide adéquate parce qu'ils vont avoir un gros coffre d'outils qu'ils vont avoir appris à l'école puis qu'ils vont avoir traîné avec eux. Fait que moi, je pense que c'est vraiment au niveau de l'éducation. Puis au niveau de l'éducation, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire et beaucoup de problèmes. Puis moi, je suis dans le réseau de la santé. Je sais comment ça marche à les hôpitaux. Puis mes deux filles sont à l'école. Puis je vois la différence que là, il y a des programmes qui sont en train de se mettre en place. J'ai des petites filles qui n'ont pas de problème à l'école puis maintenant qui sont motivées.
Ouais.
Mais on fait une part à la maison. Mais ils passent tellement de temps à l'école que je trouve que l'éducation à l'école est hyper importante. Puis ça non plus, on n'en a pas suffisamment parlé.
Oui, ça c'est sûr, l'éducation, c'est sûr. Là, je faisais référence bien sûr au sondage. Merci Caroline là, qui disait que les deux priorités, c'est vraiment en matière de santé. Ensuite, bien sûr, il y en a d'autres. L'éducation n'est pas très loin derrière. Caroline faisait entre autres mention de la prévention, ce qui est un grand bout d'ailleurs du programme de Québec solidaire. Mais pas seulement, je pense que mais chacun y est allé un peu au compte-goutte. Ce qu'on ressort, ce qu'on retient des quatre, c'est un peu ça. Québec solidaire, bon, on insiste sur la prévention, ce qui est une très belle idée. Mmh. En fait, quand on regarde les quatre propositions des partis, tout ensemble, il y a des bonnes idées là-dedans. Mais c'est que chacun a son idée, mais ils y mettront pas en pratique.
Écoutez, les trois grands thèmes...
On le sait, ça.
Les trois grands thèmes qu'on aurait dû aborder, à mon humble avis, durant la campagne électorale, c'était l'accès aux soins. Ça, c'est évident que c'est un thème très important. L'accès aux nouveaux médicaments...
Le PQ en a parlé.
On en a parlé un peu, mais on n'en parle pas beaucoup. Puis on est un an et demi en retard ici sur le reste du monde. Je ne sais pas trop pourquoi, ça nous prend un an et demi avant d'avoir les nouveaux médicaments ici. Et puis, l'accès à l'information. Il y a des recherches qui se font ici. On a une banque de données génétiques ici qu'on n'a pas nulle part ailleurs. Comment ça se fait qu'on n'est même pas capable de comparer les performances de l'hôpital X avec l'hôpital Y? Ça se fait pas. On n'a pas les données, on n'a pas accès à ces données-là. Alors, si l'hôpital X a du succès dans, je sais pas, dans sa liste d'attente, dans les urgences, l'hôpital Y est pas au courant de ça. Il est pas au courant comment ça fonctionne à cet autre hôpital-là. Alors, l'accès aux données, c'est un autre phénomène qui pourrait nous apporter énormément de choses.
Oui. Merci beaucoup, Jacques Létourneau. Le mot de la fin, rapidement, 10 secondes.
Ben, on va prendre acte de ce que les Québécois, Québécoises vont décider le 1er octobre, puis on s'en parlera le lendemain.
C'est sûr, ça.
Merci parce que ça va changer de paradigme, vous allez voir. Le discours va changer.
Oui, vous êtes optimiste, Jacques. Ben, on vous prend au mot. Jacques Létourneau, président de la CSN. Merci, Pierre Blain. Merci beaucoup, Jacques Beaulieu. On se retrouve après les nouvelles.